Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est midi à Kinshasa. Bonjour à tous. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo sera dans quelques petites heures officiellement le nouveau président de la République démocratique du Congo. L'opposant doit prêter serment au palais de la nation à Kinshasa. Le nouveau président, Fatshi, pour ses proches, va prendre le relais du chef de l'État sortant, Joseph Kabila Kabangé, âgé de 47 ans, dont 18 à la tête du plus vaste pays d'Afrique subsaharienne. Les deux hommes entreront dans l'histoire comme les acteurs de la première transition sans violence ni effusion de sang de l'histoire congolaise. Ce dernier s'est adressé hier à la nation congolaise pour la dernière fois en tant que chef de l'État.
J'en appelle donc à une grande coalition de toutes les forces progressistes. Coalition contre les forces prédatrices qui se sont liguées et qui tenteront toujours de se liguer pour s'accaparer de nos ressources naturelles sans contrepartie pour nos enfants et petits-enfants. Coalition pour défendre, y compris au prix du sacrifice suprême, l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays. Le droit légitime de notre peuple à l'autodétermination ainsi que nos valeurs et notre dignité. Coalition pour une prospérité partagée et une cohésion nationale chaque jour renforcée, notre diversité étant un atout majeur. Coalition enfin pour parfaire les chantiers en cours et pour en ouvrir d'autres. Plus ambitieux encore dans les domaines des infrastructures, du développement agricole, de transformation locale de nos ressources naturelles, de renforcement de notre leadership sur le continent, autant que sur le marché mondial des minerais stratégiques. Bref, une coalition pour un Congo fort et prospère, havre de paix, facteur de stabilité régionale et locomotive du développement de l'Afrique.
Joseph Kabila Kabangé, chef de l'État sortant de la RDC, la prestation de serment de Félix Tshisekedi doit avoir lieu en présence de chefs d'État, de gouvernement et de délégations venues de l'étranger. Au Sénégal, les sections jeunesse de deux coalitions de l'opposition ont lancé un appel à manifester demain vendredi à Dakar, alors que la tension monte à un mois de l'élection présidentielle dont ont été écartés les deux principaux opposants au président sortant Macky Sall, candidat à sa réélection. Nous sommes déterminés à mener ce combat malgré les intimidations et nous ferons face aux forces de l'ordre, a déclaré mercredi lors d'une conférence de presse le secrétaire général de l'Union des jeunesses travailliste libérale, l'UJTL et député du Parti démocratique sénégalais, le PDS, Toussaint Manga. Le candidat de son parti, l'ancien ministre Karim Ouad, tout comme l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, ne figure pas parmi les 5 noms validés dimanche par le Conseil constitutionnel pour la présidentielle du 24 février. Alors que le pouvoir affiche sa fermeté et dénonce les appels à l'émeute, des responsables musulmans et catholiques multiplient les appels à la retenue et au dialogue au Sénégal. En Côte d'Ivoire, le climat politique reste tendu en dépit de la reprise du dialogue politique en vue de la réforme de la CEI, la Commission électorale indépendante. Un député est en prison et observe une grève de la faim, tandis qu'un autre est sous la menace d'une arrestation. D'Abidjan, les explications de notre correspondant, Georges Ibrahim Tunkara.
Député membre du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, est pressenti pour être le maire de la commune du Plateau. Après les élections municipales d'octobre dernier, Jacques Ewo est dans le collimateur de la justice. Il est soupçonné des détournements de près de 5 milliards de francs CFA organisés par la mairie du Plateau, alors dirigée par Noël Akossi Benjo, lui aussi cadre du PDCI, contraint à l'exil depuis des mois. Quant à Alain Lobognon, député proche de Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, il croupit depuis quelques jours à la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Sansan Kambilé, ministre de la Justice.
Lorsqu'un député, au volant de son véhicule ivre, tue un piéton, c'est un acte détachable. Lorsqu'il commet une escroquerie, c'est un acte détachable. Il n'y a pas d'immunité totale en matière d'inviolabilité. Jacques Ewo, il est poursuivi pour des faits de détournement des biens publics, d'enrichissement illicite. Quant à M. Lobognon, il est poursuivi en matière de flagrant délit pour avoir incité à la violence et diffusé de fausses nouvelles. Il n'y a pas d'acharnement contre quiconque.
La semaine dernière, des députés sont montés au créneau pour dénoncer ces différentes poursuites. Le député Yao Soumaïla.
C'est la main des élites de la nation, bénéficie au moins quand même des immunités parlementaires. La bonne gouvernance aurait quand même exigé quand même qu'on passe par l'Assemblée nationale et qu'on regarde si d'abord dans un premier temps. On peut les leur immunité parlementaire, mais tout cela n'a pas été fait.
Christophe Christophe Kwame, le président de l'ONG Civisme Côte d'Ivoire. Oui, dit-il, pour lutter contre la corruption, mais que cela s'applique à tout le monde, pas seulement à Jacques Ewo.
Nous travaillons sur la corruption et nous félicitons le gouvernement de poursuivre. Mais alors, il faut que le gouvernement poursuive tout le monde de manière impartiale. Donc nous disons que certes, il faut lutter contre la corruption, mais la façon de le faire qui fait croire qu'il n'y a que des maires et des conseils régionaux du camp de mon adversaire qui sont touchés à la démission et qui sont poursuivis, on n'est pas d'accord avec ces décisions du gouvernement.
Ces différentes procédures judiciaires irritent le PDCI. Son président Henri Kona Bédier a récemment lancé un appel au président Ouattara afin que cessent des pratiques immorales et illégales ainsi que le recrutement forcé des fonctionnaires et agents de l'État pour faire partie du RHDP, la coalition au pouvoir. Quant à Guillaume Soro, dont les relations sont de plus en plus tendues avec le RDR, sa famille politique, il ne sera sans doute pas au congrès constitutif du RHDP prévu ce 26 janvier. Certains cadres du pouvoir militeraient même pour son départ de la tête du Parlement. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Un total de 20 candidatures, dont celle du chef de l'État sortant, Azali Assoumani, ont été déposées à la Commission électorale nationale indépendante des Comores, la CENI, en vue de l'élection présidentielle anticipée du 24 mars. Les prétendants avaient jusqu'à mercredi minuit pour déposer leur candidature. Sur ces 20 noms, seuls 5 sont soutenus par un parti politique. Tous les autres se présentent sous l'étiquette d'indépendants. Le président Azali est donné grand favori du scrutin aux Comores face à une opposition décimée et incapable de s'accorder sur un candidat unique. De nouvelles manifestations sont prévues aujourd'hui au Soudan, dont une marche vers le palais présidentiel à Khartoum pour réclamer le départ du président Omar el-Béchir au pouvoir depuis près de 30 ans, selon les organisateurs. Depuis le 19 décembre, le Soudan est en proie à un mouvement de contestation déclenché par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain dans un pays en plein marasme économique. La répression gouvernementale a suscité des critiques à l'étranger. Le président Omar el-Béchir a imputé les violences à des conspirateurs et affirme que les forces de l'ordre n'ont tué aucun manifestant. Des ONG internationales comme Human Rights Watch et Amnesty International évoquent quant à elles au moins 40 morts, dont des enfants et du personnel médical. Vous suivez VOA Afrique. Le pape François donne aujourd'hui le coup d'envoi de son programme aux Journées mondiales de la jeunesse, JMJ, en rencontrant les autorités du Panama, et ses propos seront scrutés dans le contexte de la crise au Venezuela. Le souverain pontife célébrera sa première messe publique des Journées mondiales de la jeunesse ce soir. Le pape François prévoit de rester jusqu'à dimanche au Panama. La fermeture d'un des plus grands centres d'accueil de migrants d'Italie a suscité hier l'indignation d'une partie des habitants et de nombreux élus. Le point avec Morgane Guiriec.
Annoncé avec un préavis de 48 heures, l'évacuation du centre, qui accueillait plus de 500 personnes, a commencé mardi à Castelnuovo di Porto, au nord de Rome. Hier, 75 migrants ont été transportés par autocar vers d'autres régions et la structure doit être totalement évacuée d'ici la fin du mois. On peut changer les politiques d'immigration, mais on ne peut pas jeter les gens comme ça dans la rue. C'est insurgé Riccardo Travaglini, maire de cette petite localité de 9000 habitants. L'annonce de la fermeture de ce centre d'accueil pour demandeurs d'asile est la conséquence de la nouvelle loi durcissant les règles de l'immigration. Ce texte, voulu par Matteo Salvini, ministre italien de l'Intérieur et chef de file de l'extrême droite, a déjà aboli les permis de séjour pour personnes vulnérables, familles ou femmes seules avec enfants. Matteo Salvini estime que de tels centres coûtent cher et ne font qu'accroître la criminalité. Hier, il a une nouvelle fois justifié sa mesure, rappelant que c'est une intervention de bon sens qui fera économiser aux Italiens 6 millions d'euros par an sans enlever de droits à personne.
La paralysie politique à Washington a contraint Donald Trump à reporter sine die le discours présidentiel sur l'état de l'Union. D'après le locataire de la Maison-Blanche, ce grand discours sera prononcé dans un futur proche. Cependant, le conflit entre républicains et démocrates qui prive de budget une partie des administrations fédérales semblait toujours insoluble. Le Sénat américain doit voter aujourd'hui sur deux textes concurrents pour tenter, chacun à leur manière, de sortir de l'impasse. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes. Vous retrouverez, comme d'habitude, Marie Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi sur le continent.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.